Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. À l'approche de l'été, on n'aurait pas pu choisir meilleur film que celui dont on parle aujourd'hui, Make to My Love, Canto Uno. Préparez-vous à une émission de débat, puisque le réalisateur Abdelatif Kechiche est un cinéaste souvent paradoxal, mais toujours fascinant, pour le meilleur comme pour le pire. À mes côtés, l'équipe de Vitamine Ciné est au grand complet et en grande forme, en tout cas je l'espère. Et même si vous les connaissez sûrement déjà, je vais les introduire dans un esprit musical et estival pour rester dans l'ambiance de notre générique et de notre émission. Tout d'abord, si elle était un groupe musical, nul doute qu'elle serait un quatuor suédois au tube entêtant. Je sais que devant Make to My Love, elle a lâché un Mamma Mia. Reste à savoir si c'était d'admiration ou de dépit. Bonsoir à Badeline.
Bonsoir.
En grande forme, Nicolas.
Coup du sort, cette année, le Festival de Cannes tombe en même temps que le festival culte de son pays natal. J'espère donc que tu sauras exporter l'esprit des vieilles charrues sur la croisette. Bonsoir, Lucas.
Bonsoir.
Autour de la table, il est le seul à pouvoir me citer de tête tous les intervenants de bandes organisées. Et sur l'autoroute de la comédie musicale, il fait 0 à 100 en 2 secondes 3. Ça tombe bien puisqu'il va participer à cette émission en freestyle total. Bonsoir Louis.
Salut Nico, bah une arrivée en claquette chaussette comme on dit.
Et enfin, c'est l'ingénieur son de notre émission, élément indispensable à tout groupe, à tout festival et donc à toute émission qui se respecte. C'est en quelque sorte le Phil Spector ou le Jack Endino de notre émission. Bonsoir Victor.
Merci, bonsoir.
Et toujours sur une note enjouée, évoquons rapidement la réouverture des salles de cinéma. Après un petit montage de films à venir, vous écoutez la séance du dimanche par Vitamine Ciné et personne ne peut nous canaliser.
C'est Jésus qui m'a fait ça. Les stigmates.
Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur.
Santa Benedetta.
Waouh, c'est une mouche. Mais non. Oh si, putain, c'est une mouche.
Michelangelo.
Santità. Io non ho limite.
The day you left for Marseille, I drove to the airport. I went to the gift shop and I saw this necklace.
La patience est un plat qui se mange sans sauce.
Et donc depuis le 19 mai dernier, les salles de cinéma sont enfin accessibles de nouveau, mais dans des conditions toujours particulières. Ainsi, je peux tout simplement vous poser la question, que pensez-vous de cette réouverture et quel film allez-vous voir ou avez-vous vu? Je commence avec toi Lucas, car je sais que tu as vu un ou deux films.
Ouais, c'est ça. Bah, au moment où on enregistre l'émission, là, ça fait quoi? Ça fait deux jours que les salles sont ouvertes. Et je suis allé voir en premier lieu, dès mercredi, Mandibule, bien sûr. Ça fait maintenant plus d'un an qu'il aurait dû sortir et qu'on
et vient, on parle. Ouais.
On parle depuis longtemps de ce film. Et je vous recommande d'aller le voir. De toute façon, il n'y a pas grand-chose, finalement, pour la réouverture. Il n'y a pas énormément de films, en tout cas, très alléchants. Mais ouais, bon, Mandibule, bon, moi, j'ai bien aimé. Il m'a fait peur, Dupieux, quand même, pendant la première demi-heure où je me suis dit, ah, peut-être que je ne vais pas accrocher à un Dupieux, là, pour la première fois. C'était pas très marrant et ça patinait un peu. Et puis Adèle et Exarchopoulos arrivent. Et c'est pas juste elle en fait qui est drôle, mais ce qui est fort, c'est qu'elle rend aussi les autres drôles. Elle rend tout le film drôle dès son apparition, où elle joue un personnage, vous avez sûrement vu des extraits de bande-annonce, qui est très difficile à jouer. Ça peut vite tomber dans le pas marrant. Et certains la trouveront pas drôle d'ailleurs, mais moi j'ai trouvé ça très bon. Donc voilà, pas un Dupieux flamboyant, mais un Dupieux qui fait un bien fou en cette période.
Je crois que tu as vu un deuxième film aussi.
J'ai vu un deuxième film qui s'appelle Le Dernier Voyage, qui est un film de science-fiction française, qui est assez rare pour être noté. Donc je suis allé le voir. Bon, non. Enfin, j'aurais pas. Enfin, si, j'aurais dû. Je regrette pas d'être allé le voir, mais ça m'a pas du tout plu. Je trouvais ça cliché, avec un univers vraiment. Enfin, j'ai trouvé nul post-apocalyptique, mais déjà vu mille fois. Bon, voilà. Après, c'est un premier film. Hein, je crois que c'est Romain Quirot, il me semble. Donc je vais pas non plus. M'amuser à déglinguer le film, mais bon, au moins il y a une tentative. Après, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense un vrai fan de science-fiction, ce que je ne suis pas. Mais bon, ça fait quand même du bien d'aller voir même ce genre de film-là au cinéma.
Et toi, Louis, quel genre de film vas-tu aller voir?
En effet, comme Lucas, ça fait vraiment du bien de retrouver les salles. Je les ai retrouvées hier ce qui m'a moins manqué en revanche, c'est l'incivilité des gens qui est de retour, elle aussi. Ceux qui commentent à ta gauche tout le film, tout du long. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier Drunk, que je suis enfin allé voir, que j'ai enfin rattrapé sa super bande son. Un film que j'ai bien aimé, porté par un Mads Mikkelsen qui est grand et qui, je trouve, porte le film lorsque le scénario ou le rythme pêche un peu, parfois, notamment en deuxième partie de film. Lui, il vient apporter un peu de profondeur avec ses expressions, son... vraiment ses expressions du visage, sa posture, etc. Ce que j'aimais aussi, c'est vraiment les moments de bascule, les moments où tu sens que ça peut et ça va vriller. Et puis, bah, mention à la scène finale et au plan final qui sont vraiment jouissifs. Et j'ai lu un petit truc sur le film, justement, quelqu'un qui disait « Quand on en sort, on a envie de boire des coups, mais on ne sait pas si c'est pour célébrer la vie ou pour l'oublier. » Et je trouve ça très juste, et c'est ce que j'ai ressenti aussi en sortant du film. Et bah ouais, vive la réouverture des salles, même si, comme l'a dit Lucas, c'est un peu creux niveau programmation. Je m'attendais à un peu plus de films intéressants à aller voir.
C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films qui sont sortis, mais on a un peu du mal à s'y retrouver, vu que ça fait 6 mois que c'est fermé. Les films ont été repoussés, donc il y a certaines ressorties, il y a certaines nouveautés, il y a aussi des films de patrimoine, évidemment, qui ressortent sur les écrans. Donc toi, Adeline, est-ce que tu vas voir un de ces... Que vas-tu privilégier, en tout cas ?
Alors, c'est très drôle, parce que le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était Drunk, du coup. Et pour la réouverture du cinéma, j'ai privilégié les terrasses plutôt que les cinémas. Donc, je ne suis pas encore allée au cinéma. Mais c'est vrai que je pense que j'aimerais plus voir les films que je n'ai pas pu voir quand ils sont sortis, comme Adieu aux cons.
Adieu les cons.
Adieu les cons. J'ai eu des avis mitigés, mais je suis quand même curieuse, donc j'aimerais aller le voir. Et il a fait un très très beau démarrage, bien meilleur que celui qu'il avait fait la première fois.
Lors du coup, 60 000 entrées, oui.
Ouais, ça a été super fort. Et après, j'aimerais bien voir Le Garçon de Chiffon. Le Garçon, que j'attends un peu, je pense qu'il va être bien. Le film de Viggo.
Folie.
Bon, j'ai vu une super interview qui donne vraiment envie. Je pense que même si le film est. J'attends rien de lui. Je pense que c'est intéressant de voir quand un acteur se met derrière la caméra, surtout pour un premier film dans lequel il s'est beaucoup investi. C'était rigolo parce que le journaliste lui a posé la question « Vous avez jamais travaillé avec des réalisateurs suédois ?» Il a dit « Bah si, avec moi. Je suis un réalisateur suédois. » Et du coup, c'était danois ? Non, suédois.
Voilà, danois, je crois.
Danois.
Ça y est, j'ai un doute.
Je confonds les pays de la Scandinavie.
Ah bah bravo, c'est très raciste. Et pour revenir sur ce que tu disais, Lucas, sur Adèle Exarchopoulos. J'ai regardé une interview aussi où des acteurs du Palma Show, ils disaient que genre, c'était impressionnant et que c'était fou en fait, de la voir jouer parce qu'elle était tellement forte et que du coup, son personnage est compliqué dans Mandibule et en fait, elle est vraiment très très forte parce qu'elle est empreinte du personnage et ça ne rend pas ça ridicule. Et toi, Nicolas ?
On reparlera d'Adèle tout à l'heure, de toute façon.
Évidemment. Et moi, de mon côté, j'ai pas encore eu le temps d'aller au cinéma, mais un peu comme vous, je vais me précipiter sur Mandibule. Et il y a aussi Michel-Ange, le film Michel-Ange de Konchalowski, qui était sorti juste avant la fermeture des salles et qui a l'air très beau, avec William Defoe dans le rôle du peintre. Donc je me demande ce que ça vaut, mais je suis très curieux d'aller voir ça. Et il y a aussi tous les films qui vont sortir donc un peu plus tard cet été, qui ont un peu plus de temps pour... aussi pour être mis en avant, pour faire parler d'eux, etc. Donc il y a évidemment le film Kaamelott, que j'adore. Kaamelott.
Ah oui ?
J'adore, j'ai vu trois fois la série en entier.
Ah, j'ai vu.
Et je ne sais pas si vous aimez Kaamelott autour de la table, mais voilà.
Moi je pense que j'irai le voir.
Merci Victor.
Je viens de la régie, je suis un fan inconditionnel.
Moi j'ai un peu hâte aussi, juste pour voir comment il l'a fait, et puis parce qu'Alexandre Astier, quand même, c'est un très bon réalisateur.
En tout cas, il a beaucoup de talent. Ça... on en parlera peut-être à la rentrée, en tout cas.
Astérix n'aime pas ça.
Et il y a aussi, bien sûr, le nouveau Verhoeven, il y a Benedetta qui doit être présenté à Cannes et sorti en juillet. Je sais que Lucas, tu l'attends beaucoup. Ouais. Et voilà, donc je suis aussi curieux d'aller voir des films que je n'attends pas et donc de le découvrir. Par exemple, Stillwater avec Matt Damon qui va chercher sa fille au Baumettes à Marseille.
Franchement, peut-être un des premiers films d'envergure qui se passe quasiment entièrement à Marseille, en tout cas de ce que j'ai pu voir dans la bande-annonce.
Oui, je ne sais
et
pas.
Ça, c'est vrai que ça m'attire.
Je suis curieux de voir comment les Américains vont filmer Marseille en entier.
Il y a Love Actually aussi, un film d'envergure qui se passe un peu à Marseille. Donc,
mais là, beaucoup plus.
C'est à l'aéroport, donc c'est techniquement à Marignane.
Ouais. Voilà. Oh là là.
Il faut être précis. Lucas,
il y a juste aussi un film dont on n'a pas parlé qui est actuellement au cinéma qui s'appelle Slalom, qui est le premier film de Charlène Favier, il me semble, et qui apparemment est super, donc j'ai vraiment très hâte d'aller le voir avec une très belle affiche.
Belle affiche et un très beau thème. Je pense que ça va être très intéressant. Enfin, beau thème. Un thème intéressant dont on parle peu au cinéma qui est les abus sexuels sur mineurs dans le sport.
Et sans transition, on va maintenant parler d'un film qu'on a presque tous vu, puisque c'est le sujet de ce mois-ci, c'est Make to My Love, Canto Uno. Et on en parle après un tout petit extrait.
Aldo Machon, vous connaissez
Aldo Machon ?
La classe.
Non.
Vous connaissez pas du tout ?
C'est quoi, c'est qui ?
C'est un acteur super connu.
Ah non, je connais pas.
Ah, vous connaissez pas La Classe et tout, ça.
C'est quoi La Classe, un film?
Ah, c'est une façon de marcher, c'est... Il fait ça dans tous ses films.
Ah bon?
Ouais.
La Classe?
Il a inventé une façon
ouais,
de marcher.
Une démarche comme ça.
Mais vas-y, monte là, je te sens chaud.
Ouais, tu veux juste.
Bah vas-y, bah, ouais, carrément, regarde, montre-nous ça.
Aïe, aïe, aïe.
Petite démonstration, ça, tu me reconnais en plus.
Attends. Tu fais comme ça? Ouais, après, je m'en fous
pas. Il y a le petit saut comme
ça. Ça, ça me dit quelque chose.
Ça, Aldo, La Classe. Ah, hop là. Attention, même en arrière. Ça vous dit rien ça?
Ça vous dit rien ça? Incroyable extrait de Make to My Love. Et tout de suite, donc, je vais te poser la question rituelle, Lucas, parce que c'est toi qui avais mis ce film à piocher. Pourquoi avoir choisi ce film?
Eh ben déjà parce que c'est un film d'Abdelatif Kechiche qui est, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, d'une importance quand même assez grande dans l'histoire du cinéma français. Et qui plus est, moi personnellement, un de mes cinéastes, en tout cas vivant préféré français. Une deuxième raison, bah, c'est que c'est bientôt l'été et comme tu l'as dit, on va s'intéresser au thème estival et je crois qu'on a rarement eu un film qui s'y penchait autant. Puis tout simplement, c'est un film qui m'a captivé, je l'ai vu il y a 2 ans pour la première fois, ça dure 3 heures mais ça passe, quand on aime en tout cas, ça passe avec une rapidité assez incroyable. Et d'ailleurs, c'était mon premier Kechiche et après je me suis fait toute sa filmographie et je crois que c'est quand même celui que je préfère, donc comme quoi... Et puis bon, c'est un film qui est intéressant à bien des égards, d'abord pour ce qui se passe dedans bien sûr, mais aussi pour ce qui se passe en coulisses, parce que comme tu l'as dit, Kechiche est aussi intéressant parce qu'il crée du débat, il crée de la polémique, que ce soit au niveau de ses méthodes de tournage, on le verra. Et bon, bah, l'extrait que t'as mis montre bien que c'est un film où finalement il se passe pas grand-chose, c'est de la dragouille sur une plage, c'est des sorties en boîte, c'est... voilà, on parle avec sa mère, parce que je sais pas si tu veux résumer le film, du coup.
Il y a pas.
Je peux, hein, sinon, de toute façon, ça va aller
si
vite.
Si tu veux, oui, ça va aller vite, parce que, en fait, c'est un film qui est adapté d'un roman
de
François Bégodeau qui s'appelle La blessure, la vraie. Mais qui, j'ai regardé un peu le résumé du roman qui n'a pas grand chose en rapport à part le thème qui est donc le désir et aussi l'adolescence. Et donc, oui, en fait, je crois que t'as tout dit, c'est un jeune homme qui descend de Paris, qui retrouve sa ville natale, donc Sète, dans le sud. Et qui va dragouiller, ou plutôt être en retrait,
ouais,
lui.
Tu vas observer
ses... tout un microcosme, donc sa famille, ses amis, des filles qu'il rencontre sur la plage. Et voilà, ça dure 3 heures, mais ça passe, quand on aime en tout cas, ça passe très vite. Et donc je me tourne vers toi, Louis, et non, car tu n'as pas vu le film.
Donc bah oui, arrivé en claquette chaussette jusqu'au bout. Hein.
C'est un touriste.
Ah oui, un touriste.
Peut-être à 7 bientôt.
Je pense que tu auras quand même des choses à dire, parce qu'on va quand même, bien sûr, comme d'habitude, on va parler du film et ensuite parler d'autres thèmes.
Bien sûr.
Et donc je me tourne vers toi, Adeline. As-tu aimé le film? Je ne sais pas si tu as aimé ou pas. Genre,
je sens les regards accusateurs depuis le début.
Et non car je ne sais
bien,
pas.
Sur toutes les émissions, je n'ai pas aimé un seul film, sauf celui-ci.
Je l'avais deviné.
Il faut savoir que j'ai vu Nicolas un peu avant de voir le film et je suis allée très très à reculons. Je n'avais pas envie de passer 3 heures. Je le sentais pas. Genre vraiment, je le sentais pas. Et je suis allée de surprise en surprise. Donc déjà, ça a été un peu laborieux pour lancer le film, et donc j'étais un peu énervée et tout. Et je ne savais pas que ça se passait à 7. Alors il faut savoir que je ne viens de pas si loin de 7. Et je sais pas, en fait, j'étais happée par ce film, que du coup j'ai regardé en 2 fois parce que j'étais interrompue, et ça m'a pas dérangée, parce que en fait j'avais l'impression de juste regarder des morceaux de vie. Et je pense qu'à la fin du film, j'aurais pu le revoir, parce que vraiment, ça m'a fait plaisir. Tout du long, on suit des gens, enfin... J'étais vraiment très très happée et j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était beau, que le... Alors on reparlera du jeu, mais même le jeu... Alors les 10 premières minutes, j'ai cru que vraiment ça allait pas se passer. Genre je me suis dit, c'est bon, genre j'ai dit que j'allais pas aimer, je comprends pas et tout. Et puis après, j'ai trouvé...
Ouais, les 10 premières minutes étant, pour ceux qui n'ont pas vu, une grosse scène de cul, mais donc on a l'impression que ça va être ça pendant...
Même après.
Ouais, je parle du dialogue.
Oui.
Avec le mec, elle mange des fraises et genre elle joue pas très bien, lui il joue pas très bien.
Non, je trouve pas moi.
Non, je te rejoins justement à Lille.
Pas du tout.
Parce que justement j'avais le même rapport. Le film, je l'ai découvert donc il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Je pense que j'ai découvert à peu près en même temps que Lucas. Et j'allais pareil à reculons, j'étais pas allé le voir au ciné. C'est un film que je ne pensais pas du tout aimer et qu'au final j'ai adoré. Et il y a ce truc magique dans ce film, comme tu le dis, on est happé par cette ambiance. C'est un film parcellaire qui est un peu fait de souvenirs en fait. On a l'impression. Au bout de 3 heures de film, au final c'est pas très long, 3 heures dans une vie ni dans une journée, on a l'impression d'avoir toujours connu ces personnes. On se rappelle donc de cette marche sur la plage, du cousin qui refait Adoma Chon, de tonton, du tonton qui est gênant, de la scène avec les moutons.
Ouais, c'est des étés que j'ai pu passer, en fait. C'est aussi ça, je pense qu'il y a un truc un peu de personnel. Enfin, tu te représentes très bien en vacancier qui est à un endroit et il va rien se passer. Genre, juste, il va rien se passer, mais un rien, c'est fou, quoi.
C'est ça, et ça montre vraiment tout le talent qu'a Kechiche. Donc on parlera après des conditions du tournage, etc. Mais tu parles de la première scène, et pareil, j'ai eu la même réaction que toi la première fois que je l'ai vue. Tout d'abord, oui, il y a une scène de sexe assez explicite, et tu te dis, Kechiche retourne dans ses torts et tout. Et en fait, tu n'auras plus une seule après dans le film.
Limite, t'es un peu déçu. Hein. Genre, moi, il y a une tension à des moments, t'es là, je sais pas.
Je pense, tu vois, c'est là tout le talent de Kechiche, c'est pour vraiment piéger le spectateur et un peu évacuer le voyeurisme outrancier. Pas forcément le voyeurisme, parce que ça peut avoir son importance, mais vraiment tout ce qui peut déranger ou un peu sortir du film. Et en fait, on n'y reviendra plus. Et aussi, c'est une note d'intention pour moi le début. Je me permets de faire un peu une petite analyse, mais ça démarre, quand tu sais pas ce que tu vas voir, ça démarre par il arrive en vélo sur la plage, il y a deux textes sacrés qui s'affichent à l'écran qui sont en rapport avec la lumière, ce qui sera très important aussi. Donc c'est un truc très sacré avec la musique classique, etc. Et après, d'un coup, c'est le profane, quoi. C'est une scène de sexe, c'est une musique très populaire et tout. Lui qui est un peu voyeur, tu dis...
Complètement voyeur. Complètement voyeur. C'est même un des thèmes du film, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ouais.
C'est ça. Et en fait... Il n'y a pas d'importance entre le sacré et le profane, c'est juste la vie de tous les jours qu'il veut filmer Kechiche, en accordant une très grande importance à la lumière, et je pense qu'on pourrait y revenir. Et pour le jeu des acteurs dont justement tu parlais, pareil, j'ai eu cette sensation en découvrant le film la première fois, et même en le revoyant, où on dirait que c'est la toute première scène qui a été tournée, on le répétera après, mais c'est des acteurs totalement amateurs, c'est leur premier film, et tu sens qu'ils sont pas très à l'aise, même si ça convient justement à la scène, et tu sens qu'ils se connaissent pas encore trop...
Il n'y a pas beaucoup de complicité, c'est censé être des amis qui se connaissent depuis longtemps, des amis d'enfance. Il vient de revenir, donc il y a un peu un truc. Et en fait, tu sens que lui, il a dit « Je laisse tourner la caméra, allez-y. » Mais ils n'ont rien à se dire. Genre vraiment, elle tourne en rond, elle fait « Et du coup, la vie, nanana. » Et tu sens qu'il ne se passe rien. Elle va dans la cuisine, elle revient, elle va dans la cuisine, elle revient. Mais tu sens qu'il y a un manque de quelque chose qui ne se passera plus après. Cette première scène, j'ai trouvé que c'était génial.
Je trouve que ça colle parce qu'il revient de je sais pas combien de mois à Paris, ça fait longtemps qu'ils sont pas vus. Souvent, quand tu vois pas une personne et débute, tu sais pas trop quel sujet aborder. Je pense aussi que si ça vous fait bizarre, c'est peut-être qu'on est trop habitué, on n'est pas forcément habitué à ce type de jeu aussi avec Kechiche. On est peut-être un peu trop habitué à des jeux standardisés, hollywoodiens. Bon, j'extrapole bien sûr, mais du coup, quand on voit des gens qui jouent très vrai en fait, ça peut faire un peu bizarre. Honnêtement, je pense pas du tout qu'il joue mal dès le début.
Non, mais après, je trouve qu'après tout du long, c'est vraiment très bien. C'est un très bon jeu, mais en tout cas, c'est très réaliste, comme tu dis. En fait, c'est du vrai. Mais du coup, cette première scène, moi, j'ai trouvé qu'elle n'était pas vraie. Genre, j'ai trouvé que ça faisait très. Il y a un metteur en scène qui dit ça fait longtemps que tu l'as pas vu, etc. Et que c'est des gens qui font semblant de ce qu'ils se diraient s'il se passait un truc. Genre, elle met directement les pieds dans le plat sur sa relation amoureuse. C'est très lourd. Enfin, tu vois, genre, elle fait là, il s'est passé ça. Et en fait.
Elle est gênée,
Ouais, mais il n'y a pas de gêne. Enfin, moi, j'avais pas
ressenti. Surprise.
Ouais, mais moi, du coup, j'ai pas ressenti de la gêne. J'ai ressenti, elle déroule un scénario d'un seul coup. Genre, qu'est-ce qui se passe pour mettre l'ambiance. Mais c'est vraiment la seule scène où j'ai trouvé que ça commence un peu. C'est un peu laborieux au commencement. Enfin, au commencement, c'est un peu laborieux. T'as pas trop de. Moi, je savais pas que ça se passait à 7. Du coup, je comprenais rien. J'étais là, je sais pas où ils sont. Je pensais qu'ils étaient à Marseille. J'étais là, je sais pas. Mais après, c'est genre ça. Enfin, une fois que il y a
une fois que c'est lancé, ça s'arrête plus. C'est incroyable. C'est Kechiche. Beaucoup, on en parlera peut-être avec ses premiers films, mais c'est aussi un cinéaste du dialogue, ce qui est très fort parce que les dialogues ont tous l'air naturels, improvisés. Ils le sont en partie, mais il arrive à garder. Enfin, je ne sais pas comment il fait, mais c'est vrai que tous ces dialogues, on s'en rappelle. Il y a une scène qui dure assez longtemps qui parle du je t'aime en arabe. Comment on dit je t'aime en arabe? Et vraiment, c'est une simple scène de dialogue. Il n'y a aucune mise en scène trop poussive, trop abusive. Et pourtant, tu comprends tout à travers le jeu des regards, à travers que chacun une façon. Ça ne servait à rien de résumer ma scène, mais chacun une façon différente de dire je t'aime. Et on comprend en fait que deux personnes ont eu le même amant, vu qu'elles savent comment dire je t'aime de la même façon. Et c'est que les scènes comme ça, où c'est naturel, ça s'enchaîne. Et au final, oui, on a envie d'être avec eux, on a l'impression d'être avec eux du début à la fin.
Ouais, j'ai trouvé que c'était très touchant. Et même cette scène qui est un peu une scène à part dans le film, la scène avec les chèvres, du coup. Quand j'ai regardé cette scène, j'ai eu très chaud. Genre, tu sais, une chaleur que t'as en fin de journée, quand t'as pris le soleil toute la journée et que tu sens, et tu peux presque sentir, enfin c'est un film qui est très sensible parce que finalement tu sais très très bien quel temps il fait à ce moment-là. C'est une scène qui se passe en fin de journée et plus ça va aller, plus ça va être la nuit, et tu, c'est des bêtes, ils filment des bêtes, et en fait tu sens,
il filme une brebis qui accouche.
Et tu sens en fait que genre les bêtes sont chaudes sans le savoir. Enfin, tu peux vraiment sentir tout ce qui se passe, genre le fait qu'ils soient moites et tout. C'est tellement immersif qu'au bout d'un moment, en fait, tu t'es vraiment de. Enfin,
j'ai l'impression que c'est presque du cinéma documentaire. Enfin, ça reste de la fiction, façon, mais c'est
très belle,
en tout cas, c'est très naturaliste.
C'est vraiment. Puis là, c'est un peu bête de parler d'héritage entre cinéastes et tout, mais ça fait évidemment penser à... Enfin, Keshi, je fais penser à Piala. Je sais que tu adores aussi Piala.
Je comptais en parler.
Évidemment, car ils ont à peu près le même comportement, en tout cas des comportements similaires. Et oui, alors, étonnamment, ça fait très documentaire quand on en parle comme ça. Même la façon de filmer, c'est
pas...
C'est ça, c'est que de la caméra à l'épaule, des fois plusieurs caméras et tout. Ça tourne, il y a même... je crois qu'on entendra dans une interview que j'ai mis plus tard, Ophélie Beau, donc, qui est une actrice, une des actrices principales du film, qui dit qu'en fait elle va oublier les caméras, elle ne s'en rendait même pas compte que les caméras tournaient. Et en fait, ce qui intéresse Keshish, c'est la lumière du début à la fin. Donc il y a cette citation au début, il y a un petit livre sur Renoir qui dépasse un peu trop sur le bureau du héros. Et surtout, donc, l'acteur principal qui s'appelle Shyan Boumediene, c'est ça ?
Je ne sais plus.
Qui est magnifique.
Shyan Boumediene, oui.
Ouais, ils sont tous très beaux.
Oui, tout le monde est très beau.
De toute façon, ils magnifient ces acteurs. Et il a dit en fait que pour se préparer au rôle, Keshish lui a juste dit d'étudier Renoir, d'étudier les peintures de Renoir pour se mettre dans l'ambiance du personnage. Et le pire, c'est que ça se ressent parce que c'est un peintre figuratif, quoi, Keshish. Parce que n'était pas Renoir, mais.
Mais tu disais que qu'il te faisait penser à Piala, mais quand tu parlais de la première scène, tu sais, de sexe qui ne se passera plus après, moi j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à un de mes réalisateurs préférés dont j'ai oublié le nom, qui a fait La Polonide, qui a
Bertrand
fait Nocturama.
Bertrand
Bonello.
Bonello.
Qui fait ça aussi dans La Polonide. Il y a une scène très très marquante et très très dure en début de film. Et après, ça se passera plus. Et j'ai trouvé que ça y avait dans deux contextes différents, parce que Bonello, il fait pas ce genre de film non plus. Mais en fait, il y a une magnificence qui est telle, mais en même temps avec toujours une certaine tension. Donc là, c'est une tension sexuelle. Moi, j'avoue que pendant tout le film, les scènes de boîte et tout, genre, j'attendais que quelqu'un couche avec quelqu'un, parce que genre, je sais pas, même quand la brebis accouche, tu te dis là, Ophélie va arriver et il va se passer des choses, parce que il y a tellement une pression. En fait, vraiment, c'est la moiteur. Enfin, il y a quelque chose de très sensible. Et ça m'avait fait la même chose. Donc, je commence un peu à parler des autres films de Keshish, mais pour La Vie d'Adèle. Je l'avais vu au lycée, donc je crois que j'étais en première, je l'avais vu au cinéma. C'était très, très rigolo, et la scène qui m'avait le plus marquée, c'était pas forcément les scènes de sexe, mais c'était une des premières scènes avec Adèle Exarchopoulos, où j'arriverai pas
à dire les noms, c'est pas grave.
Là, c'est pas la journée. Où elle mange un kebab, et où je disais que j'avais été, elle pleure en mangeant le kebab, ça m'avait vraiment marqué, et ça m'avait dégoûté. Genre vraiment, ça m'avait vraiment procuré un dégoût. Parce qu'elle était tellement triste, il y a de la morve qui coule partout sur son kebab et tout. Et c'était fou parce que c'est vraiment du sensible, tu le sens en fait. Genre sans être misophone ou des choses comme ça, c'est genre tu sens tout ce qui se passe, quoi.
Et du coup, c'est un thème qu'on va peut-être parler plus en longueur dans la deuxième partie du débat. Mais il était souvent reproché à Keshish de filmer les femmes de façon vulgaire. Enfin. Je sais pas si t'as quelque chose à dire à ce propos, Lucas.
Là, on va sur autre chose. J'avais autre chose à dire sur Mektoub, mais après, si tu veux continuer dans ta lancée, vas-y.
Oui, c'était juste pour écouter. En fait, je pense que c'est intéressant d'écouter les actrices qui parlent de la façon dont Keshish a de les filmer, car beaucoup de gens lui ont reproché sa façon de faire. Et c'est très intéressant, je pense, le point de vue des actrices qui parlent de la façon dont Keshish a de les filmer.
Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que c'est un hommage aux femmes et à leur force. Ils filment que des femmes fortes qui tiennent des restaurants. Pardon. qui tiennent des restaurants, ouais. qui sont en pleine transition, des jeunes filles qui sont en pleine transition et pleine décision dans leur vie de jeunes filles à femmes qui ont des relations amoureuses et sexuelles libres. Donc non, j'ai pas du tout vu comme ça. Abdelatif aime les femmes et leur corps et tout ce qu'elles représentent, et c'est ça que je retiens du film.
Abdelaziz, même
Oui, franchement oui, parce que moi j'ai même pas pensé à ça. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est un artiste avant tout. Mmh. Et à l'époque, les peintres, on leur disait pas pourquoi tu peins une fille nue ou une fille comme ci, comme ça. C'est un artiste, il fait ce qu'il veut, il aime, il sublime ses personnages, il les aime et il raconte la vie. Mmh. Et dans la vie, ben, on est tous pareils, quoi.
Donc dans la vie, on est tous pareils, mais évidemment, Kechiche a une façon différente de filmer les femmes et les hommes. On en parlera aussi plus en longueur, et je pense que ce serait intéressant d'avoir notre avis à tous dessus. Et donc je pense que Lucas, t'avais envie de parler du voyeurisme de Kechiche, et peut-être aussi de la façon dont il a de filmer quelqu'un qui serait son alter ego, son Antoine Donnet.
Moi, juste avant, j'ai juste une question, c'était qui parlait ?
C'était tout d'abord, c'était Ophélie Beau, donc qui joue Ophélie, et ensuite Afsah Herzi.
Qui joue aussi dans La Graine et le
Qui joue aussi dans La Graine et le
Oui, non, mais bon, déjà avec cet extrait aussi, on sent que Kechiche aime les femmes. Et il a le droit évidemment d'aimer les femmes, il s'en cache pas en fait. C'est un reproche qu'on lui fait, mais lui, oui, j'aime ça. Il aime bien les femmes, alors j'ai appris un mot en faisant des recherches, calipige.
Oui, c'est-à-dire
qui ont de très belles fesses. Et Ophélie Beau a de très belles fesses. et il la filme, oui, effectivement, on reparlera, ça renvoie au male gaze. On reparlera de ça, bien sûr. Mais il y a un truc intéressant du coup dans Make to My Love, c'est que Amine, donc le personnage principal, c'est clairement l'alter ego de Kechiche. C'est un rebeu qui monte à Paris pour faire des études. Bon, il écrit un scénario. Enfin bref, c'est Kechiche quoi. Et il est très observateur, et même plus qu'observateur, c'est un voyeur. Amine Kechiche. Et il en joue. Il sait que c'est un reproche qu'on allait faire à son film, mais dès la première scène. Quand il surprend donc la scène d'amour, il regarde par la fenêtre, il regarde tout jusqu'au bout, quoi. Donc c'est clairement la petite souris qui va tout voir. Et pendant tout le film, on le voit, la scène finale de boîte, on voit il est là, il danse pas, tout le monde s'amuse, lui il regarde les gens s'embrasser, twerker sur la barre de pole dance. Il y a aussi des petits détails, tu vois. À la fin, il va dans un hôtel et il y a une mère qui donne le sein à son bébé. Et lui, il passe et il regarde comme ça à sa poitrine, comme un peu comme un taré, franchement. Et c'est ça pendant tout. Et évidemment, t'as la scène, je vais y revenir un peu, la scène de la brebis, où il va filmer et prendre en photo une brebis qui donne naissance donc à un agneau. Et on a vraiment deux regards dans le film. On a le regard, évidemment, sur la femme, et un autre regard sur la plus belle chose qui existe, la naissance de la vie, quoi, la création de la vie. Et ce qu'il y a, c'est que ces deux regards sont mis en transition, genre à la fin de la scène de la brebis, ça coupe net, et on est en boîte à 4h du mat avec la musique à fond et des culs partout. Et Kechiche aime bien jouer comme ça sur ces deux notions de regard, il aime le regard. Kechiche, c'est vraiment un sous-thème principal du film que j'avais pas vraiment ressenti à mon premier visionnage, mais là en le regardant hier, ça m'a frappé quoi. C'est vraiment le jeu du regard.
Oui, pour revenir sur le male gaze de Kechiche, en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est que déjà, j'arrivais devant le film avec beaucoup d'a priori. J'avais pas envie de le voir pour toutes les raisons de polémique qu'il y a autour.
T'avais déjà vu La Vie d'Adèle ?
Moi, j'avais déjà vu La Vie d'Adèle. Ça ne m'avait pas dérangé, genre La Vie d'Adèle, mais en y repensant, ça m'avait un peu saoulé. Oui. Genre, c'est quand même des scènes de sexe qui sont pas simulé.
J'ai les accusations qui sont sorties après aussi sur le tournage en lui-même, les méthodes de tournage.
C'est ça, c'est plus les méthodes de tournage. Et moi, j'avais peur de voir un film où quand même les acteurs sont mis sous pression, etc.
Les actrices.
Les actrices. Et en fait, donc pour revenir sur le fait qu'elles sont, c'est des Vénus calipiges, notamment Ophélie. En fait, j'ai trouvé ça très agréable. En fait, c'est-à-dire que du coup, ces décors, et d'autant plus dans La Graine et le Mulet, la scène de danse du ventre, oui. C'est pas en fait des corps. En fait, le male gaze, c'est aussi des corps stéréotypés.
Qu'est-ce que c'est le male gaze aussi on ne pas.
Vas-y, si tu veux.
Ouais, c'est une théorie qui a été amenée par Laura Mulvey, je crois, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Donc, je crois que c'est une américaine dans les années 80 qui a dit qu'en gros. Tout ce qu'on peut trouver dans le regard masculin qu'on pouvait trouver dans des œuvres, mais cinéma, musique, photo, tout ça, pouvait engendrer le patriarcat dans lequel on vit aujourd'hui, quoi. Il pouvait recréer des comportements de harcèlement qu'on a dans notre société.
Mais en fait, c'est ça, c'est une influence, et c'est une influence notamment sur la mode, notamment sur la façon dont ce qu'on considère être beau. Et en fait, on ne considère plus maintenant dans les sociétés contemporaines dues au male gaze. Des corps plantureux comme beaux. Et Ophélie, on peut considérer qu'elle est ronde et que c'est pas un corps qu'on considérait comme beau d'une façon
pas canonique, quoi.
Voilà, c'est pas un beau canonique, et d'autant plus en fait ce qui est intéressant chez Kate Fish, c'est aussi qu'il filme des femmes âgées.
Oui, c'est ce qu'elle disait d'ailleurs Ophélie Beau dans l'interview qu'on a entendue.
Et des femmes âgées très belles. Enfin, vraiment, il y a un truc de... Elles sont très simples, elles ne sont pas forcément très maquillées. Donc là, dans Mektoub, il y a une actrice qui est aussi dans La Graine et le Mulet, qui est magnifique, avec des yeux verts, celle qui joue la tante. Mmh. Et
elles sont...
Ouais.
Non, la tante... qui travaille au restaurant.
Ouais. Okay.
Qui joue la mère de...
La mère du
Tony,
cousin.
De Tony.
La mère de Tony, cousin. Ok.
Et en fait, ces personnages-là, dans un film traditionnel, ils n'iraient pas à la plage. Mmh. On les mettrait pas en maillot dans la plage. Et en fait, il y a une scène de plage où tout le monde est là. Et en fait, les corps sont très différents. Ce qui ne se passe pas dans un film où il y aurait un male gaze traditionnel, entre guillemets, qu'on ne va pas reprocher. Un film par exemple, un film de Tarantino, tu vois. Un film de Tarantino, c'est bien plus stéréotypé
des
et bien
normalisé.
Plus gênant. Parce que les corps sont normalisés. Là, c'est gênant parce que, par exemple, dans la scène de boîte, on suit des culs. Genre, vraiment, littéralement, on suit des culs tout le long. Mais c'est des beaux corps. En fait, c'est des corps qui sont très différents. Et en fait, du coup, ça a un côté très décomplexant en tant que femme de regarder ça. Parce qu'en boîte, vraiment, il y a une Anglaise, etc. Elle n'est pas considérée comme belle en tant que telle. Mais il y a un truc très beau parce qu'elle est sous... Il y a un côté, il y a énormément d'énergie, et les façons dont tout le monde, enfin la façon dont tout le monde est filmé, c'est des gens qui deviennent beaux par un regard qui est un regard de voyeur en fait aussi, parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà mon avis, qui sera peut-être un peu contrasté aussi parce que en soi il y a aussi ce qu'il faut pas oublier sur la polémique de Kechiche, qui je pense l'emporte sur le truc du male gaze. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est problématique, mais pour autant je pas sûr qu'il y ait
ce qui m'a fait tiquer moi un peu là dans l'interview qu'on a écouté, c'est de dire c'est un artiste donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Ça non.
Oui,
dans
c'est
le respect
moyens.
Des acteurs et des actrices. Par contre, je l'ai trouvé très intéressante ton analyse du male gaze sur
Mektoub. Merci. Ouais. Je suis une personne très intéressante.
J'ai quand même du mal à juger un film artistique, enfin esthétiquement et tout sur l'aspect male gaze parce que je trouve ça con, enfin ça change rien à la qualité du film en fait qu'un film soit male gaze ou female gaze ou je ne sais rien, ou comme merguez comme dirait Kechiche. En interview on lui a appris que son film était male gaze et il a dit qu'il connaissait pas ce terme et que ça ressemblait à merguez et que c'était drôle.
Et ben,
mais
cas,
on y reviendra tout à l'heure peut-être, si on va peut-être débattre plus loin sur le male gaze et tout.
On y reviendra un peu plus donc sur la filmographie aussi de Kechiche et Louis tu pourras un peu plus participer, car tout de suite c'est l'heure du jeu, ou plutôt des jeux, car il va y avoir... enfin je sais pas, c'est Victor qui va nous en parler, je ne spoil rien.
La pression.
Là, il y a une grosse pression.
Je suis content de retrouver Adeline.
Donc bien sûr, après toujours, un magnifique le mois petit dernier. Générique.
Nous allons jouer à un jeu.
Ah, not a chance.
On va arrêter avec les jeux, la dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
One, two, three.
Je vous propose un autre jeu plutôt. Vous connaissez un jeu auquel je gagne toujours?
Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu.
Je peux perdre, mais je gagne toujours.
Et donc Victor, que nous as-tu concocté cette semaine?
Eh bien, c'est encore un quiz, mais cette fois-ci, je vais être un peu plus sympa parce qu'il y aura deux quiz. Il y aura un quiz facile et un quiz normal, donc qui va vous fumer. Le quiz facile compte, chaque bonne réponse du quiz facile compte pour un point, et si vous voulez faire l'aventure Koh-Lanta du quiz difficile, c'est x2 sur chaque réponse. Est-ce que...
on va essayer de faire la première étape pour une fois.
Est-ce qu'on fait un petit tirage au sort ou est-ce qu'il y a un heureux ou une heureuse élue qui veut se...
On peut faire un tirage au sort pour être plus pratique.
La première personne sera Adeline.
Ah ben je suis ravie, vraiment.
La deuxième personne sera Louis.
Ah.
La troisième personne sera Nicolas. Et donc, pas besoin de faire. Le dernier à pouvoir choisir son thème sera donc Lucas.
Le pauvre, c'était déjà lui le mois dernier.
C'est vrai, il n'y a aucune justice.
Je vais me refaire.
Adeline, est-ce que tu veux un quiz facile ou un quiz difficile?
Je pense qu'on va quand même pas aller sur le difficile tout de suite. On va aller sur une petite facilité.
Donc tu as le choix entre 4 thèmes, horreur, Marvel, science-fiction et années 80.
Allez.
Années 80.
Années 80. Allez, on est parti tout de suite. Et sans transition, quelle actrice a été Victoria dans le film de Blake Edwards en 1982?
Julie Andrews.
C'est une bonne réponse. Ça fait
excellent.
Un petit point.
C'était compliqué.
Et c'est un quiz extrêmement facile. Non, ça, c'est de plus en plus dur, normalement. De quelle pièce de Shakespeare a été adapté en 85 le film Ran d'Akira Kurosawa?
C'est Hamlet?
Et non.
Non,
le Roi Lear.
C'est tout à fait le Roi Lear. Toujours un point, quel acteur a mis en scène le film Reds en 81 et a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur?
C'est un acteur?
Ouais.
Qui a mis en scène? Dans les années 80. Je crois que Nicolas a la réponse, je vais lui laisser.
Al-Ashby?
Non.
Pas du tout.
Une autre tentative personne, c'était Warren Beatty.
Et je confonds les deux.
Oui, bah on dit tous ça.
Désolé. Allez, question suivante.
Quel boxeur a été interprété par Robert De Niro dans le film Raging Bull en 1980?
Ne me regarde pas avec ses yeux de détresse.
Mais je sais pas le nom.
Jack LaMotta.
Exactement, c'est
ouais,
Jack LaMotta.
LaMotta.
Et toujours un point, désolé. Quel est le plus gros succès commercial de la décennie?
80?
En 80, ouais.
Plus gros succès commercial?
Commercial, ouais.
Ah oui, oui, oui.
Oui, oui.
Est-ce que tu veux un indice sur le réalisateur?
J'ai bien un indice.
C'est Steven Spielberg.
Et le regard de Nicolas, je te le laisse pas, je vais réfléchir pendant 2 minutes.
On a un débat à continuer, on a plus trop de temps.
Ok, bah très bien, c'est Titanic. Je sais pas,
Titanic, c'est James Cameron. C'était E.T.
C'était E.T. l'extraterrestre, effectivement.
C'est Cameron. Voilà, bah super.
Allez, à Louis.
Tout de suite, Louis, est-ce que tu veux un facile ou est-ce que tu veux un difficile?
La question ne se pose pas, je vais prendre facile.
D'accord, tu as donc le choix entre horreur, Marvel et science-fiction.
Aucun ne me parle vraiment. Je suis très mauvais de...
Moi, je dirais Marvel.
Eh ben alors, je vais écouter Adeline. Je n'ai vu aucun Marvel quasiment. Je boycotte Marvel, mais je vais prendre Marvel.
C'est une très bonne idée parce qu'en plus, les questions sont très précises.
Ah, non. Alors, je prends horreur.
Horreur. Désolé.
Non, allez, je
vais en difficile de toute façon.
Ok, bon, c'est horreur.
Ouais, mais je suis pas plus calé, franchement. Allez.
Dans le film Psychose 1960, putain. Comment s'appelle le tueur?
Putain.
Ah, il y en a un qui est dégoûté.
Moi je le savais.
Le nom du tueur. Bates.
Ouais. Mais de prénom.
C'est un youtubeur.
Il fait des vidéos.
Norman Bates. Ouais.
Quelle culture. Dans le film Halloween, qui est la première victime de Michael Myers?
Sa mère, non?
Son petit frère.
En fait, le problème, c'est que Nicolas, il nous laisse pas jouer.
Sa petite sœur, Judith Myers. Ah, mais... On n'accepterait donc pas la réponse. Toujours un point. Non. À quelle heure George Lutz se réveille-t-il toutes les nuits dans Amityville?
À 1h43 du matin.
C'est raté. Tu l'avais?
Je ne sais pas.
Non,
c'est 3h15.
Ouais, j'étais presque.
Évidemment.
Un peu plus simple. Ça. Qui est le scénariste de Poltergeist?
Le scénariste?
Ouais.
J'ai pas idée.
Steven Spielberg?
C'est Steven Spielberg, effectivement.
Ah, il a aussi officieusement réalisé, mais il fallait pas trop le dire.
Ok.
Et finalement, qui a réalisé les effets spéciaux et le maquillage pour le film An American Werewolf in London en 1981?
Ah, j'ai vu ce film.
Non.
John Landis?
Non. C'était Rick Baker.
Rick Baker.
Ah, bien vu. Oh, le monstre.
Bravo. Ouais.
Bah, en même temps, il a toutes les réponses. On sait très bien qui triche depuis le début.
Nicolas.
Alors, c'est quoi les thèmes au choix?
Marvel SF pour les simples.
Et les difficiles.
Et les difficiles, c'est quoi?
Et sinon, c'est cinéma français. Qu'est-ce que je ne me souviens même plus des thèmes. T'as acteur masculin, acteur féminin derrière l'écran.
Ah, bah oui, c'est les mêmes que la dernière
fois. C'est la même fois. J'ai joué la carte de la sécurité et prendre Marvel Studios.
Marvel Studios. Ah, et donc ça veut dire que ça laisse plus que science-fiction ensuite.
Pour montrer que tous les cinémas sont.
J'ai dit en intro que je détestais ce genre.
Elle est relativement simple en vrai, science-fiction.
Ok.
Alors, t'as Marvel, tout de suite. Dans Les Gardiens de la Galaxie, qui joue Rocket Raccoon?
Bradley Cooper.
C'est une bonne réponse. Qui a réalisé The Avengers en 2012?
Josh Whedon.
Exactement, ça fait 2 bonnes réponses. Qui a entraîné Daredevil?
Faut le prénom de l'acteur?
Non, le prénom du personnage.
Styx.
C'est Styx, effectivement. 3. Quelle masterclass. Donc Ghost Rider, quel ancien rider est le guide de Johnny Blaze?
Johnny Blaze joué par Nicolas Cage, évidemment.
Oui, je sais.
Ça ne fera pas de points supplémentaires.
Si l'ancien rider, je ne sais pas, alors que j'ai vu ce film lors de sa sortie âgé de 9 ans.
Eh bien, c'était Carter Slade.
Je ne l'aurais pas su.
Et finalement, qui a interprété le Punisher pour la première fois en 89?
John Travolta?
Non.
Bah.
Vous l'avez?
Non.
C'est Dolph Lundgren.
Dolph Lundgren.
On l'embrasse.
Et finalement, est-ce que tu vas prendre science-fiction du coup?
Oui,
tu veux tenter.
Sinon, ouais, il y a difficile cinéma
j'aimerais
français.
J'aimerais bien cinéma français. Mais en vrai, c'est bah le seul oui, du style qui me tentait. Mais...
En deux réponses juste, ça te fait 4 points. Oui. Et bah tu nous bats tous.
Donc,
tu
veux... Il m'a dit qu'il était facile le science-fiction.
Tu veux science-fiction du coup ?
Ouais.
Ok. Combien y a-t-il de passagers dans le Nostromo dans Alien ?
Non. Ah si. Mais c'est bah... bon, ça va.
C'est bah... la première question.
8 plus 1, non ?
Ah non.
Non.
Ah non, Alien, le...
Ouais, bah c'est pas le 9e.
Le 8e.
Ah, c'est le 8e. Ah, bah, 7 plus 1 alors. Ah,
si on compte le chat, c'est le chat, le 8e passager.
Oui.
C'est vrai, c'est bien vu. Mais sauf que non, c'était 7.
Ok.
Comment s'appelle l'ordinateur de bord dans 2001, l'Odyssée de l'espace ?
Al.
Al comment ?
Al Capone. Le 2000.
Ah, 9000.
9000, ouais.
Putain, à chaque fois
je te mets un demi-point pour le Al. Quel acteur français joue dans Rencontre du troisième type ?
François Truffaut.
Ouais, ça fait 1,5 point. Alors là, c'est technique. Quelles sont les années de sortie des épisodes de Star Wars à 2 ans près pour chacun ?
Attends, les 6
ouais. Les 9, hein.
Non, non, les 6. Saga...
Moi, je vous le fais. Hein.
Oui, mais
en plus, je vous donne 2 ans près pour chacun.
77.
Ouais.
Bah, je vais mettre plus 2 à chaque fois. Hein. 79.
Ouais.
81.
Ouais.
Oh, la technique.
Il y a peut-être eu un petit moment entre les autres.
Techniquement, c'était
89.
Non, c'est raté.
Putain. Bah, j'ai
tu vas-y, tente le Nico.
Alors, regarde, donc 77, ouais. 80, 83.
Ouais, c'est on point là, pour le coup.
Ensuite, la prélogie c'est 99, 2002 et 2005.
Ok, bah, c'est bon.
J'étais loin.
La postlogie c'est 2015.
Ça, j'ai pas noté ensuite. C'est vraiment les 6.
2015, 2017, 2019, ouais. Ainsi que des spin-offs en,
Rogue One, ouais.
En 2016 et 2018.
L'encyclopédie.
Oh. Ouais.
Et finalement, dernière question, quel est le nom de la nouvelle d'Arthur C. Clarke écrite en parallèle du tournage de 2001 ?
Je sais pas.
Quelqu'un avait ici
Nicolas là.
Bah, 2001 aussi de l'espace tout
non,
simplement.
La Sentinelle.
Ok.
C'est le nom de la nouvelle.
Je crois que c'est plutôt la nouvelle qui a inspiré Kubrick pour travailler avec Arthur C. Clarke sur 2001.
Ils l'ont pas écrit en même temps justement ou la nouvelle.
Non justement c'est 2001 qu'ils ont écrit en même temps pour faire un roman d'accord. À la fin.
Nicolas plus okay. Fort en fait, que les questions.
Ouais, Nicolas qui écrit.
Excusez-moi.
Ça signifie que la question n'était pas assez bien pour lui.
Espèce d'idiot.
Allez.
Et bah sur ce, c'est une grande victoire
de
Nicolas.
Pas si grande.
Bon, 3 points quand même. Hein. C'est 2 fois plus que le meilleur score.
Et après cet élan de modestie, on va passer à la suite de notre débat. On aura plus grand temps pour en parler. Et bien sûr, on va faire une petite pause musicale, comme si on en avait besoin. Ça dure 40 secondes. Et vous allez voir, c'est une reprise d'un morceau très connu. Vous écoutez toujours la séance du dimanche par le collectif Vitamine Ciné sur Radio Campus Paris. On vient d'écouter la musique tirée du film Make to My Love lors d'une scène de transition.
Deux reprises même.
Exactement, deux reprises, notamment lorsqu'ils vont pour partir en boîte, hop, ça coupe, et en fait ils sont à la plage, c'est l'explosion de joie, tout le monde joue dans l'eau, etc. Cette musique qu'on a écoutée, c'est la reprise par Frank Carducci de School de Supertramp. Donc déjà, j'avais fait une dédicace à mon papa qui m'a fait découvrir School de Supertramp, qui est un morceau
c'est la même pour
excellent.
Moi.
Et ben dédicace à nos deux papas.
Bah ouais.
Et c'est aussi une musique que j'ai retrouvée, car j'arrivais pas à la retrouver en fait, qui l'avait reprise, grâce à Cinesic, dont on avait interviewé le créateur de notre émission numéro 9.
On l'embrasse, lui, pour le coup.
On l'embrasse. Et donc, on a parlé de nombreux thèmes, on a beaucoup de choses à dire sur Make to My Love, et je pense qu'on peut continuer sur le male gaze et sur la filmographie d'Abdelatif Kechiche. Je t'en prie, Lucas, vu que je sais que tu aimes beaucoup Kechiche.
Bah oui, mais après, on a déjà un peu abordé le male gaze, mais ce que je reproche à ça, c'est évidemment pas son intérêt, hein, c'est l'intérêt de voir, comme donc le Rameulvé l'a fait dans les années 80, comment l'art peut aussi influencer nos comportements en société, je dis pas ça. Ce que je trouve con, c'est quand ça devient un argument pour dire qu'un film est mauvais, quoi. Donc, le film de Kechiche serait mauvais parce qu'il sexualiserait les femmes. Alors qu'en soi, c'est pas du tout un argument esthétique, c'est un argument moral, quoi. Et c'est ça que je trouve un peu limite et limité, en fait. Et ça a été aussi, bah, le cas, on va revenir à la vie d'Adèle, peut-être. Bon là c'était pas pour l'aspect male gaze, mais une des grandes critiques qui a été faite sur ce film, c'est elle venait de gens qui disaient que les scènes de sexe, donc entre Léa, donc Léa Seydoux, je sais plus, on va les appeler par leur prénom d'actrice, donc Léa et Adèle, les scènes de sexe entre ces deux filles-là seraient pas du tout représentatives du sexe lesbien, quoi, féminin.
Après, il y avait aussi le débat sur l'adaptation. C'est que c'est un des seuls films dont c'est une adaptation et c'est une mauvaise adaptation.
Mais bah non, c'est quoi une mauvaise adaptation ?
Dans le sens, par rapport aux gens qui
avaient... Pas fidèle aux...
Ouais, parler.
Ouais, mais ça n'en fait pas une mauvaise adaptation. Une adaptation, justement, dans le mot adaptation,
il
faut qu'ils mettent aussi de lui, de sa personnalité dans l'œuvre.
Oui, mais dans le sens où dans la BD, il n'y avait pas ces scènes de sexe.
Mais du coup, elle n'est pas fidèle, mais on ne peut pas dire qu'elle soit
mauvaise. Oui, elle n'était pas fidèle, c'était pas mauvaise adaptation.
D'ailleurs, pour Mektoub, qui est aussi une adaptation du livre de Bégodeau, et Kechiche a appelé Bégodeau en lui demandant s'il pouvait complètement modifier son œuvre. Bégodeau a dit pas de problème tant que tu fais un chef-d'œuvre. Voilà. Pour l'anecdote.
Et est-ce que vous. En fait, vous avez. C'est quoi votre rapport au cinéma de Kechiche? Avec quel film vous l'avez. Enfin, je sais qu'Adeline, tu avais découvert donc, La vie d'Adèle il y a un moment. Et j'ai cru comprendre que tu avais rattrapé d'autres Kechiche après avoir vu Back to My Love. Et qu'est-ce que tu as pensé vite fait de ces autres films?
Ouais, en fait, moi j'avais regardé La vie d'Adèle donc, au cinéma quand j'étais au lycée. Et j'avais vraiment aimé, en fait. Genre, vraiment, c'est un film que j'aime beaucoup, toujours. Et après, il y a eu toutes les polémiques. Je sais pas, j'avais un doute sur mes souvenirs de La vie d'Adèle. Bref, j'avais un peu la flemme. Et puis 3 heures. En vrai, c'est assez... Enfin, on en parle comme ça, mais moi, je passe pas beaucoup de temps devant un écran, normalement, pour regarder un film. Et bon, j'ai hâte de la réouverture des cinémas. Mais du coup, je me sentais pas trop de passer 3 heures devant un film de Kechiche en ayant peur qu'il ne me plaise pas. Et en fait, après avoir regardé Make to My Love, j'ai regardé La Graine et le Mulet, genre je pense dans la soirée qui a suivi. Et là j'aimerais bien voir Intermezzo, c'est ça ?
Alors Intermezzo, on peut peut-être en parler vite fait car c'est un cas un peu particulier. C'est un film qui était présenté comme la suite de Make to My Love, car dès le tournage en fait il y a même eu des procès par les producteurs et par France Télévisions notamment, parce qu'il devait y avoir un seul film, et Kechiche a profité de l'argent pour tourner deux films d'affilée. Et en fait Intermezzo n'est pas Canto Due, donc la suite de Make to My Love, mais c'est un intermède comme le titre l'indique, qui a été présenté donc au Festival de Cannes en 2019. Et dès qu'il est sorti, il y a eu beaucoup de polémiques parce qu'en fait c'est un film qui dure 3h40 et qui n'est pas du tout la suite, mais qui est une sorte de version longue de la scène de boîte et de la scène de plage en fait.
Okay.
Et c'est très décevant, donc j'ai eu la chance de le voir ce Intermezzo, et c'est très décevant parce que c'est un essai cinématographique, mais c'est pas un film très très intéressant à voir en fait. Oui, on regardait 3h40, bon, avec un peu de lassitude, et en fait on s'en fout un peu parce qu'on retrouve pas la même façon qu'à Kechiche de filmer les corps et de pouvoir couper comme il veut. C'est vraiment en fait une copie de travail qui a été présentée. Je pense qu'il y a un malentendu aussi là-dessus, c'est que Intermezzo tel quel c'est une copie de travail et ça aurait pas dû sortir sous cette forme de 4 heures non finies, sans générique, avec vraiment des scènes de twerk qui duraient un quart d'heure. Ouais. Beaucoup de scènes qui étaient interminables, et c'était un peu les chutes de la scène de boîte qui était pourtant beaucoup plus courte, qui dure un quart d'heure, 20 minutes dans le film Make to My Love, et qui était très réussie. Et je pense du coup que Intermezzo aurait peut-être dû adopter le même chemin que la version longue de la danse du ventre de La Graine et le Mulet, car une danse du ventre incroyable à fin de La Graine et le Mulet, et qui est disponible aussi sur le DVD du film en bonus. Il y a une version longue qui dure 40 minutes qui s'appelle Sueur, c'est un court-métrage. Et donc c'est intéressant à regarder, mais au final ça apporte pas grand-chose de plus au propos. Et c'était assez décevant pour tous ceux qui avaient aimé Make to My Love numéro 1 et qui pensaient être devant la suite.
Tu parlais de la scène de ventre, et juste après, c'est ça, il y a quand même une scène qui dure, je sais pas, une demi-heure aussi, où là, une scène de tension, c'est-à-dire que... La Graine et le Mulet, c'est-à-dire que, bon, ils doivent préparer une sorte de couscous pour un restaurant, sauf qu'il y a un des neveux qui a oublié d'amener le couscous, du coup... comme ça fait très con, mais en fait, c'est une scène
incroyable.
Qui est d'une tension.
Ouais, d'une tristesse.
Dure, et je sais pas, il arrive aussi à mettre de la tension dans des récits comme ça très naturalistes. Et il y a aussi, pour revenir juste une dernière fois sur Mektoub, donc tu as dit, il y avait une utilisation de Supertramp à la fin, mais il y en a une aussi avant où Amine est donc en train de séduire une fille, donc il l'amène dans un bar. Et on voit que petit à petit, cette fille est intéressée par un autre homme un peu plus âgé. Et tu sens qu'Amine la sent partir petit à petit, et ça crée de la tension comme ça pendant facile une demi-heure, la scène, avec une scène de danse et tout ça. Et donc ça finit encore une fois avec un baiser entre donc celle qu'il convoitait et un autre homme sur la musique de Supertramp. Et là aussi, grosse scène de tension, moi j'adore.
Et donc, si vous, est-ce que Louis aussi, vite fait, parce qu'on a plus trop le temps, c'est quoi ton, est-ce que t'as déjà vu des adaptations fictives?
Ouais, moi, j'ai un peu une mauvaise expérience parce que j'avais vu La Vie d'Adèle, mais en famille. Je crois qu'il était passé sur Canal Plus à l'époque, et du coup, j'étais plus gêné qu'autre chose, et j'ai pas pu me concentrer réellement et totalement sur le film. Par contre, j'ai vu L'Esquive aussi, qui est un peu moins long que les autres, je crois.
Ouais. Est-ce que tu as aimé L'Esquive?
Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Okay. Et là encore, c'est très très documentaire. Tout ce dont on a parlé, ce dont vous avez parlé pendant l'émission, on le retrouve.
Et encore une fois, avec un personnage principal qui est timide. Ce qui est quand même pas. C'est quand même assez fort de faire un film sur un mec timide, quoi.
Donc vous l'aurez compris, on recommande Make to My Love. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot ou un dernier conseil à ajouter?
Bah, on a pas parlé d'un de ces films qui est le moins connu, qui est Vénus Noire, sur la Vénus Autantote. Donc on parlait tout à l'heure de femmes calipiges. Bah, là, c'est. Bah, la Vénus Autantote, c'est ça. Et pourtant, un film qui est aussi très asphyxiant, très dur.
Ah oui,
et
là.
Qui n'en reste pas moins magnifique, quoi.
Toi, Adeline, si tu devais recommander un Keshish à voir pour découvrir l'univers
Keshish. Je pense que Make to My Love. Genre, j'ai préféré à La Graine et le Mulet. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était très très beau. Et je pense qu'il faut le regarder maintenant.
Oui, juste avant l'été.
Juste avant l'été, parce que du coup, t'as très envie de juste partir à 7, te foutre sur une plage et attendre de rien faire, quoi.
Ben, je suis d'accord. Make to My Love, j'adore La Graine et le Mulet, je ne sais pas lequel je préfère.
Il y a La Faute à Voltaire aussi qui est excellent.
Ah, je trouve quand même ça, ça se voit plus que c'est un premier film.
C'est son premier film, ouais.
C'est ça. Je trouve qu'il est vraiment au top de son art avec Make to My Love.
Ouais, moi aussi.
Et La Graine et le Mulet. Et donc, malheureusement, on aurait aimé en parler encore une bonne heure de plus, mais l'année prochaine, sur Radio Campus Paris, vous aurez sûrement le plaisir de nous écouter pour des émissions de 1h30, ce qui nous fait un peu plus plaisir. Et là, avant de tirer au sort le thème de la prochaine émission, qui sera aussi un peu spécial, on vous en parlera un peu plus, est-ce que vous avez des recommandations à faire ou pas, vraiment en quelques mots, des recommandations culturelles?
Bah, tout à fait. Moi, je profiterai de l'arrivée des Jacques Tati sur Netflix pour se replonger dans l'univers de Monsieur Hulot, que ce soit grâce à Netflix ou, comme on l'a dit sur notre post Instagram, via les éditeurs vidéo qui, eux, payent leurs impôts en France.
Évidemment.
Je conseillerais particulièrement mon oncle, qui est mon Jacques Tati préféré, et j'adore tous les Jacques Tati. On retrouve dedans son goût du jeu, de la dérision, des gens et des mœurs. Voilà, donc le jeu, la mise en scène, les décors, aussi le son, le cadre. On a tout ce qu'on aime chez Tati. Et puis juste avant l'été, les vacances de Monsieur Hulot, évidemment.
Évidemment. Adeline, toi?
Moi, j'ai deux recommandations. Donc, un, pour aller plus loin, je vous conseille le podcast Les couilles sur la table, qui parle du male gaze. Donc, ça sera peut-être mieux expliqué que nous. Et c'était pas mal, ça m'a vraiment intéressée, notamment sur la place des femmes dans le cinéma, puisqu'en fait, toutes les personnes qui font la féministe, il y a plus de femmes qui rentrent, mais moins de femmes qui seront connues à la fin. Donc, c'est assez intéressant. Et enfin, j'ai re-regardé Mystic River
de
Clint Eastwood
avec Sean Penn,
que j'avais jamais vu et qui m'a beaucoup touchée. Enfin, alors c'est un film assez intéressant. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça serait plus une enquête. Finalement, pas tant que ça. Et c'était bien. Voilà, je conseille.
À toi, Lucas.
Désolé si on doit faire court. J'avais prévu un petit truc, mais tant pis. Moi, je vais juste faire une contre-recommandation avec. Le film qui a gagné l'Oscar du meilleur documentaire 2021, qui est La Sagesse de la Pieuvre. Voilà, ne regardez pas ça, c'est tout.
Louis, il semble d'accord avec toi.
Oui.
Et allez, t'avais un autre truc à recommander?
Non, je voulais juste partir un peu sur ce docu, mais si on doit aller vite, tant pis.
Et oui, toi, Nico?
Moi, ça serait le livre C'était Stanley Kubrick par Michael Herr aux éditions Séguier. C'est, en gros, pour faire vite, l'auteur était un proche de Kubrick. Il dresse un portrait forcément très subjectif de Kubrick à travers ce petit essai qui dure une centaine de pages. Mais pourtant, c'est intéressant. C'est pas le Kubrick qui a existé. Mais c'est une facette de Kubrick de surcroît très intéressante et s'adresse en portrait au final humain du réalisateur qui casse un peu l'image du misanthrope qui est encore trop répandu de nos jours à propos de Kubrick. Et surtout, ça se finit sur un excellent chapitre sur Eyes Wide Shut, qui est, je pense, un des meilleurs Kubrick. C'est dans mon top 3, sans donner d'ordre. Et ça parle aussi de l'accueil mitigé qu'a eu le film, qui était pourtant génial. Donc voilà, maintenant on va tirer au sort un thème pour la prochaine émission qui sera diffusée le 27 juin, donc juste après le début de l'été, même si vous aurez le plaisir de nous retrouver pendant tout le Festival de Cannes pour des pastilles quotidiennes, deux émissions, beaucoup de programmes, on ne sait pas comment on va tenir ça. C'est un très beau programme. Et donc pour la prochaine émission, on a décidé déjà de faire une émission de 2 heures.
C'est la dernière de la saison. Donc.
C'est ça, il y aura des jeux, etc. On verra de quoi on va parler, ça sera un peu plus de l'impro, mais en tout cas on a chacun mis un thème à tirer au sort qui est en rapport avec l'été. Et une ambiance festive, donc ce à quoi au final le Make to My Love aussi participait très bien. Et donc Victor, main innocente, je te laisse piocher.
Mais avant ça, exceptionnellement, je recommanderais aussi The Handmaiden ou Mademoiselle en français. Très très bon film coréen, incroyable, oui, que j'ai pu voir avant-hier.
Voilà. Eh ben, merci.
Et sur ce, le petit papier qui nous dit l'été au cinéma.
Ah, c'est moi qui l'ai mis, mais j'ai peut-être pas compris tout à fait la consigne. Est-ce que tu peux peut-être en tirer un autre parce
un
que
moi, deuxième. Je... Ouais. Et c'est encore mieux car c'est se bourrer la gueule.
Eh bah, c'est encore mieux. Voilà, c'est l'ouverture des terrasses.
Qui a mis ce.
Oh, qui est un garçon. Oh.
J'avais hésité à mettre l'alcool au cinéma en plus. Ah. Donc on va tous s'y retrouver.
J'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'était ton truc, Nicolas.
Moi, c'était la plage au cinéma, mais dans le sud surtout.
Ah, voilà, moi j'étais.
Wow. Et toi ?
Alors moi c'était la corrida, les taureaux, Interville.
Oh !
C'est un peu lié.
Top à la vachette.
Franchement, on pourra faire un peu.
C'est bien
un...
parce que se bourrer les gueules regroupe tout ça.
Voilà. C'est ça. De bah, toute façon, ça serait une émission un peu plus libre, un peu plus en impro. Oui, donc oui, au final, on pourra parler de tous ces thèmes et de bien plus si possible, notamment de Marseille, Louis. Hein, car bah, oui. Je
et
sais que ça t'évoque l'été. Et donc la séance du dimanche est déjà finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast pour ne rater aucun épisode, surtout sur les autres plateformes de podcast parce que Spotify commence à supprimer nos épisodes, ce qui n'est pas très
cool. Les strikes, les salauds.
Exactement. Donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram sous le nom de Vitamine Ciné. On se retrouve très vite, donc le 27 juin, et on se quitte en chanson avec la musique de fin de Make to My Love. C'est San Francisco par Scott McKenzie. Et on vous dit à très vite.
À très vite. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna